45e aventure. Comment Dambrenard, Messire Noble le Roi et Grimbert firent de beaux discours qui ne persuadèrent personne, et comment Messire Noble donna connaissance à Dambrenard de l'acte d'accusation. L'arrivée de Dambrenard et de Grimbert causèrent un grand mouvement dans l'assemblée des barons. Il n'y eut bête qui ne témoigna la plus vive impatience de soutenir l'accusation. Isengrin, le connétable, aiguise même déjà ses dents dans l'espoir que le champ lui sera donné. Tibère et Brun brûlent de venger, le premier sa queue perdue, le second le chapeau rouge qu'il a rapporté. Chanteclerc se dresse sur ses ergots, près de Rohognos qui gronde et aboie d'impatience. Mais au milieu de toutes ces démonstrations de haine et de fureur, Renard, redevenu lui-même, affecte une apparente tranquillité. Il s'avance d'un air serein jusqu'au milieu de la salle et, après avoir promené lentement ses regards fiers et dédaigneux à droite, à gauche et devant lui, il demande à être entendu et prononce le discours suivant. « Sire roi, je vous salue comme celui qui vous a rendu le meilleur service à lui seul que tous vos autres barons réunis. On m'a diffamé auprès de vous. Mon malheur a voulu que je n'ai jamais joui tout un jour de votre bienveillance. » On me dit que, grâce aux flatteurs qui vous entourent, vous voulez me faire condamner à mort. Peut-on s'en étonner quand le roi se complaît dans le rapport de gens sans honneur, quand il répudie le conseil de ses barons les mieux éprouvés? Dès que l'on abaisse les têtes pour exalter les pieds, l'État doit se trouver en mauvais point, car ceux que la nature a fait serf ont beau monter en puissance, en richesse, ils ont toujours le cœur servile, et leur élévation ne leur sert qu'à faire aux nobles de cœur et de naissance tout le mal possible. Jamais chien affamé ne se contentera de lécher son voisin. Les serfs ne sont-ils pas le fléau des pauvres gens? Ils conseillent le changement des monnaies pour enfler leurs bourses, ils rongent les autres et profitent seuls de toutes les iniquités qu'ils ont provoquées. Mais je voudrais bien savoir ce que Brun et Tibère viennent réclamer de moi. Assurément, ils peuvent, avec l'appui du roi, me faire beaucoup de mal, qu'ils aient tort ou raison. Mais enfin, si Brun fut surpris par le vilain Lanfroid, comme il mangeait son miel, qui pouvait l'empêcher de se défendre? N'a-t-il pas des mains assez larges, des pieds assez grands, des dents assez fortes, des reins assez agiles? Et si le digne Tibère fut pris et mutilé pendant qu'il mordait, rase et sourit, en quoi cela peut-il m'atteindre? Étais-je maire ou prévôt pour lui faire obtenir réparation? Et comment viendrait-on me demander ce qui ne serait pas en mon pouvoir de rendre? Pour ce qui regarde Isengrin, en vérité, je ne sais que dire. S'il prétend que j'aime sa femme, il a parfaitement raison. Mais que cela désole le jaloux, je n'en puis mais. Parle-t-on de murailles franchies, de portes rompues, de serrures forcées, de ponts brisés? Je ne le suppose pas. Quelle est donc l'occasion de la clameur levée? Mon ami, la noble dame Hersant ne me reproche rien. De quoi se plaint donc Isengrin? Comment sa mauvaise humeur pourrait-elle entraîner ma perte? Non, sire Dieu m'en préservera. Votre royauté sans doute est très haute, mais je puis le dire en toute assurance, je n'ai si longtemps vécu que pour faire, envers et contre tous, acte de dévouement et de fidélité à votre endroit. J'en prends à témoin le Dieu qui ne ment pas, et Saint-Georges, patron des proches chevaliers. Maintenant que l'âge a brisé mes forces, que ma voix est fêlée et que j'ai même assez de peine à rassembler mes idées, il est peu généreux de m'appeler en cour et d'abuser de ma faiblesse. Mais le roi commande et j'obéis. Me voici devant son fauteuil. Il peut me mettre en chartre, me condamner au feu, à la harpe. Toutefois, à l'égard d'un vieillard, la vengeance serait peu généreuse, et si l'on pendait une bête telle que moi sans l'entendre, je crois qu'on en parlerait longtemps. » À peine Renard avait-il fini, que le roi noble, prenant la parole à son tour, « Renard, Renard, tu sais parler et te défendre, mais l'artifice n'est plus de saison. Maudite l'âme de ton père et de la mauvaise femme qui te porta sans avorter. » Quand tu aurais toutes les ruses de la fauve ânesse dont parle le livre, tu n'éviterais pas la punition de tes nombreux méfaits. Laisse donc là ton apparente sécurité, c'est de la renardie. Tu seras jugé puisque tu le demandes, Mes barons, ici rassemblés, décideront comment on doit traiter un félon, un meurtrier, un voleur tel que toi. Voyons, quelqu'un veut-il dire ici que ces noms ne te conviennent pas? Qu'il parle, nous l'écouterons. » Grimbert se leva. « Sire, dit-il, vous voyez que nous avons répondu à votre semonce. Nous sommes venus nous incliner devant votre justice. Est-ce à dire pour cela qu'il convienne de nous traiter outrageusement, même avant d'entendre la cause? Voici Dampe Renard qui se présente pour faire droit et satisfaire à ce qu'on va lui demander. Si quelque clameur s'élève contre lui, vous devez, sire, laisser à la défense liberté entière et tous les moyens de repousser publiquement une accusation publique. » Grimbert n'avait pas encore cessé de parler quand se levèrent tous ensemble Isengrin le loup, Rohonios le matin, Tibère le chat, Tiercelin le corbeau, Chanteclair le coq, Pinte la géline, Droin le moineau et Dame Couard le lièvre. Sans parler de Brun l'ours, de Frobert le grillon, de la corneille et de la mésange. Le roi ordonne à tous de se rasseoir, puis lui-même expose les diverses clameurs levées contre Renard et soumises au jugement de la cour assemblée.